Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission consacrée à la promotion et à la défense des droits humains du mois d'avril. Et autour du micro avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonjour par ce beau soleil de printemps.
De printemps, oui. Après quelques averses et une averse de grêle tout à l'heure.
Mais là, bon, on a le soleil.
Le temps est changeant. Et donc, de la deuxième participante à l'émission, animatrice, s'appelle Edith.
Ben, bonsoir, je n'ose plus rien dire après Claire-Lise. Bon, c'est elle qui a la place près de la fenêtre. Elle
oui, c'est ça.
Toujours, moi. Toujours derrière la fenêtre ou alors auprès
voilà,
du poêle.
On va changer la prochaine fois. Oui, oui.
Et on peut faire un lien d'ailleurs avec les sujets qui vont nous occuper. Il y en aura beaucoup, donc on ne va pas tous les vous énumérer tout de suite. Hein. Ne quittez pas l'antenne avant 20h et même après pour le laboratoire. Mais donc voilà, mais on peut faire un lien en disant qu'on va vous parler de météo, nous aussi, mais de météo des droits humains.
Oui.
C'est une belle image.
Bon, bravo, bravo. Mais c'est parce que tout va bien pour Didier.
Oui, mais Claire-Lise, Edith, il faut parler dans le micro. T'es un peu reculé, on va moins entendre.
J'allais faire une aparté que je ne ferai pas tout de suite.
Bon.
Allez, démarrons.
Donc voilà. Alors pour commencer l'émission, ben, on va, vous n'êtes pas sans savoir que les élections européennes arrivent à grands pas. Ce sera le 6 et le 9 juin prochain. Et donc dans la dernière chronique.
Le 9 ?
Oui.
Entre 6 et 9 ?
Non, c'est le 9. C'est le 9.
Ben, c'est marqué du 6 au 9 prochain. C'est marqué sur la page de la revue.
Bon,
je sais pas. Bref. Mais enfin, bon,
en général, on n'y va pas en milieu de semaine, tu sais.
Bon.
Enfin bon, après, tu fais comme tu veux.
Bon. Bref.
Alors,
le 9. Je ne sais pas si on va réussir à démarrer l'émission. Donc, les élections pour le Parlement européen ont fait l'objet d'un édito signé par le président Jean-Claude Samouillet d'Amnesty France. Dans la chronique, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. Et que si vous n'êtes pas abonné, ben, il faut le faire en allant sur le site amnesty.fr. Vous avez le formulaire d'abonnement. Donc voilà. Alors voilà ce que dit Jean-Claude. Les élections au Parlement européen se tiendront. Alors, il a marqué du 6 au 9.
C'est parce que c'est pour tous les pays.
On a trouvé.
C'est pour tous les pays européens. Rigolo.
C'est le 9.
C'est ça. Donc nous, c'est le 9. La campagne est donc lancée. Et nous y prendrons part avec détermination parce que nous ne pouvons plus laisser se déliter davantage la promesse originelle de l'Union européenne, défenseur des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Nous ne pouvons plus tolérer que tous ses habitants ne soient pas égaux dans l'accès à leurs droits au prétexte qu'ils n'ont pas de papier ou pas suffisamment, ou pas les bons, parce qu'ils sont âgés, porteurs de handicap, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, les bonnes convictions, la bonne orientation sexuelle, la bonne couleur de peau, le bon pays d'origine. On parle des droits civils et politiques, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels, que la troisième plus grande puissance économique au monde se doit de garantir à toutes les personnes présentes sur son territoire. Droit au meilleur état de santé possible, à l'éducation, à un hébergement digne, à la protection sociale. Quant au droit à une justice équitable, l'Europe que nous souhaitons doit tout mettre en œuvre pour conforter l'état de droit et prendre les mesures nécessaires contre ses membres qui ne respectent pas l'indépendance de la justice, qui remettent en cause les droits fondamentaux des personnes LGBT ou le droit d'avorter pour toute personne pouvant être enceinte. L'Europe que nous voulons, c'est une Union européenne et des États membres qui mettent les droits humains au-dessus de toute autre considération dans leurs relations diplomatiques et qui confortent l'universalité des droits humains et le système international des droits de l'homme. L'Europe que nous voulons devra prendre des mesures urgentes et vitales pour lutter contre le changement climatique. L'Europe que nous voulons devra enfin réguler l'espace numérique et l'intelligence artificielle pour préserver notre vie privée, notre liberté de mouvement, d'expression, de manifestation. L'Europe que nous voulons, c'est la liberté et la justice pour tous et la solidarité. Voilà. Je pense que c'était un bon rappel des valeurs effectivement fondamentales pour lesquelles se bat Amnesty International depuis tant d'années. Et donc, comme on parlait de l'Europe de droit et de justice, il y a Claire Lise qui va prendre la suite pour vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Alors là, je ne vais pas vous parler de l'Europe tout de suite, mais je vais vous parler en fait des actions d'Amnesty, des actions juridiques qui ont été menées par Amnesty avec une dizaine d'ONG. Et nous demandons dans 3 actions juridiques distinctes la suspension des livraisons d'armes à Israël. Alors, entre le 8 et le 12 avril, des avocats d'Action Sécurité Éthique Républicaine, la SER, d'un collectif d'ONG représentant ATTAC, la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, la FTCR, l'Association France-Palestine Solidarité, la FPS, l'Association des Marocains de France, la MF, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, le CRLDHT, l'Union syndicale solidaire, ainsi que Amnesty International France ont déposé 3 référés devant le tribunal administratif de Paris concernant les autorisations de transfert d'armes délivrées par les autorités françaises au bénéfice d'Israël. 3 organisations s'associent également via des interventions volontaires à la procédure d'urgence. C'est l'ACAT France et Stop Fueling War pour la procédure lancée par ACER et la Ligue des droits de l'homme, la LDH, pour celle que nous avions initiée. Ces 3 démarches juridiques distinctes ont pour objectif de faire respecter les engagements internationaux de la France. Alors, la France viole les règles internationales. Donc, parmi ces démarches juridiques, il y a donc ce qu'on appelle un référé liberté porté par Amnesty International en associant la LDH, qui a été déposé le jeudi 11 avril 2024 auprès du tribunal administratif de Paris. Notre objectif, c'est obtenir la suspension des licences d'exportation de matériel de guerre pour les catégories ML5, matériel de conduite de tir, et ML15, matériel d'imagerie, à destination de l'État d'Israël. En effet, il existe clairement un risque que les armes et les équipements militaires que la France exporte vers Israël soient utilisés pour commettre de graves crimes contre les populations civiles dans la bande de Gaza occupée. Ce faisant, la France viole les règles internationales relatives notamment au traité sur le commerce des armes et risque de devenir complice de violations du droit international, y compris de crimes de guerre et d'un possible génocide. Nos ONG, donc Amnesty International et la LDH, soulignent que ces démarches contentieuses s'inscrivent dans un contexte de très graves violations du droit international humanitaire, justifiant une urgence dans la réponse de la justice. Tous les États partis à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, dont la France, ont l'obligation de prévenir la commission du génocide et de s'abstenir de contribuer à sa commission. La France ne peut pas ignorer le fait que des composants français pourraient être utilisés dans la bande de Gaza, car assemblés dans des armes israéliennes. Peu importe la quantité et le montant des matériels de guerre transférés, la France n'a qu'une seule responsabilité, s'assurer que ces transferts d'armes n'emportent pas un risque substantiel d'être utilisés pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. Donc ça, c'est Jean-Claude Samoulier, le président d'Amnesty International France, qui faisait cette remarque. Alors que la CIG, le 26 janvier, a statué sur le caractère plausible d'un génocide en cours et qu'elle a établi le 28 mars que la situation continuait à se détériorer dans la bande de Gaza, la famine n'étant plus seulement un risque mais une réalité, la France, comme tous les États partis à la Convention sur le génocide, a une obligation d'agir pour mettre fin à cette situation. Elle s'ajoute à celles qui sont formulées par le traité sur le commerce des armes, ratifié par la France et par la position commune de l'Union européenne en matière d'exportation d'armes.
Or, il apparaît de plus en plus clairement, à travers les réponses du gouvernement aux différentes interpellations écrites et orales qui lui ont été adressées, que la France continue de livrer du matériel de guerre à l'État d'Israël. Avec l'affaire Eurolynx, révélée par le média d'investigation indépendant Disclose, ces livraisons de matériel militaire sont apparues au grand jour. Nos organisations, chacune porteuse de son histoire et de la logique d'élaboration de son action contentieuse, ont décidé de coordonner leurs actions. C'est une situation inédite qui répond à l'extrême gravité des crimes commis par le gouvernement israélien contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Alors, la décision de la CIG du 26 janvier 2024 a mis sur le devant de la scène la question des ventes d'armes à Israël comme enjeu de droit international. Donc, les démarches contentieuses ont déjà été engagées dans différents pays par des collectifs d'ONG au Danemark et aux Pays-Bas, avec succès dans ce dernier pays. Dès le 5 février, la région Wallonne, en Belgique, a annoncé la suspension temporaire de 2 licences d'exportation de poudre à Israël sous la pression des ONG. L'Espagne, l'Italie et le Canada ont suspendu temporairement et en partie leur transfert d'armes. Au niveau international, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a officiellement demandé le vendredi 5 avril l'arrêt des ventes d'armes à Israël. La France s'est abstenue lors du vote. Malheureusement, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ce samedi 13 avril la requête déposée par Amnesty International. Le juge s'est déclaré incompétent et a donc débouté les requérants. Il a estimé que le dossier n'était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, se rangeant ainsi à l'argument développé pendant une brève audience ce samedi matin par le représentant du gouvernement, Antoine Pavago. La section française d'Amnesty donc, avait saisi la justice aux côtés de la Ligue des droits de l'homme pour tenter de contraindre le gouvernement à suspendre les licences d'exportation d'armes vers Israël et jusqu'à ce que l'État hébreu se conforme à ses obligations internationales. Donc, lors de l'audience, l'avocat d'Amnesty International, maître Lionel Cruz-Zoé, a mis en avant la situation humanitaire catastrophique à Gaza et la récente prise de position du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a exigé l'arrêt de toute vente d'armes à Israël. Nul ne conteste la gravité de la situation au Proche-Orient, mais la position de la France est équilibrée puisqu'elle a appelé à un cessez-le-feu, a répondu le représentant du ministre des Armées, Vincent Droulet. La France, a-t-il insisté, ne livre pas d'armes à Israël, mais des composants intégrés dans un système d'armes à vocation purement défensive. Donc le tribunal doit encore se prononcer en début de semaine prochaine sur 2 requêtes similaires déposées par d'autres associations. L'une émane de l'OMG Action Sécurité Éthique Républicaine avec l'ACAT France, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Stop Fueling War et Sherpa et vise l'exportation de matériel de guerre de catégorie ML3, munitions et éléments de munitions. L'autre a été déposée par un collectif regroupant notamment ATTAC et France-Palestine Solidarité et porte sur toutes les licences d'exportation de matériel de guerre vers Israël. Il y a une opacité extrême autour des conditions dans lesquelles la France aujourd'hui intervient et fournit des armes à l'État hébreu, a dénoncé jeudi lors d'une conférence de presse maître Vincent Brengart, avocat de ce collectif. Donc voilà, c'est quand même inquiétant parce que tout continue et la France, seulement la France par rapport à d'autres États européens, continue à faire des livraisons de ses composants.
Quand on avait parlé des armes, de toute manière, on ne peut même pas avoir une clarté sur les ventes d'armes en France. C'est hyper compliqué, oui. Ce qu'on avait fait l'autre fois. Donc,
c'est très opaque.
Et même les députés...
Alors le juge des référés s'est déclaré incompétent. Ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas le faire, mais ça risque. Il risque de le faire pour les deux autres...
Oui, parce que la problématique, c'est qu'il met en même temps les relations avec le pays et la vente. Donc c'est quand même... Voilà, c'est...
Oui, mais bon, enfin, là, encore une fois, tout ce qu'a rappelé Claire Lise et tout ce que rappelle Amnesty dans ses prises de position, c'est c'est pour faire respecter les engagements de la France, oui, qui sont résumés dans le traité sur le commerce des armes, entre autres, et que la France a signé, et qu'elle ne respecte pas, encore une fois. C'est toujours le même problème.
Bah, c'est pas compliqué. Tu vends plus des armes, tu vends des tout petits morceaux qui peuvent, oui, se mettre ensemble pour faire quelque chose. Effectivement, tu bottes bien en touche avec ça.
On n'est pas responsable de ceux qui assemblent kit, hein, quand même.
Voilà, ceux qui font des choses bizarres avec les petits morceaux. Voilà.
J'ai pu lire aussi dans les documents par rapport à ces plaintes déposées par Amnesty et les, ces différentes ONG, qu'une des réponses du ministère, ça avait été de dire « Ah ben, les armements, donc en pièces détachées qu'on fournit à Israël, pour l'instant, Israël s'est engagé à les recéder à un autre pays, sans apporter la moindre preuve, comme si c'était en quoi que ce soit plausible. » Ouais. Bon, enfin, bon. Et, mais vous venez d'entendre Edith, mais Edith, garde la parole, parce que je crois qu'on va changer de sujet, mais c'est toi qui vas nous parler de, oui, chasse à l'écureuil. Je,
absolument,
ne sais pas ce que ça voulait dire.
Encore une écolo.
Vous connaissez mon amour de la nature, donc je ne chasserai pas les écureuils. Mais effectivement, à certains moments, les écureuils sont chassés, et c'est aussi en France. Donc je vais m'inspirer grandement d'un article de la Chronique qui est fait par Léna, alors là, le nom, je vais avoir du mal, Burström, voilà, mais j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir. Donc qui parle effectivement des écureuils. Alors les écureuils, réfléchissez bien, ce sont ces gens qui grimpent dans des arbres, dans des zones à défendre, et en particulier sur le tracé de l'autoroute A69 dans le Tarn. Alors c'est des opérations critiquées. Le maintien de l'ordre, c'est pas le fait que les écureuils montent, c'est le maintien de l'ordre qui a eu lieu par rapport à ces gens dans les arbres, qui est critiqué par le rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement. Le 29 février dernier, après sa visite sur place, Michel Force, qui est le rapporteur, je vous en parlerai tout à l'heure un peu, exige une enquête et des sanctions pour les actes de privation de sommeil, de combustion de matériaux, d'allumage de feu et de déversement de produits a priori inflammables par les forces de l'ordre qui ont pu mettre en danger la vie des écureuils. Alors, ce sont ces pratiques qu'ont fait preuve les forces de l'ordre. Et de telles pratiques relèvent des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdits par la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention contre la torture des Nations unies, rappelle ce rapporteur, lequel réclame à la France des mesures immédiates afin d'assurer la protection des militants. Dans la foulée, les activistes ont déposé, eux, une requête en urgence à la Cour européenne des droits de l'homme. La visite de Michel Force dans le Tarn faisait suite à des plaintes qui lui ont été adressées. Alors, si le rapporteur ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sa voix porte loin dans les antichambres du pouvoir. D'autant qu'il se soucie plus largement de la nette augmentation de la répression des militants écologiques en Europe, dans un document présenté, celui-ci, le 28 février. Après plus d'un an de collecte d'informations dans les pays européens, signataires de la Convention d'Aarhus, le rapporteur s'alarme de la réponse disproportionnée des États, dont la France, aux mobilisations environnementales. En juin 2023, le rapporteur et d'autres experts de l'ONU s'étaient déjà inquiétés d'un usage excessif de la force par les autorités françaises lors des manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Soline et d'une tendance à la stigmatisation et à la criminalisation des militants par ce gouvernement. Fin 2022, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait aussi qualifié les actions de certains opposants aux méga-bassines d'éco-terroristes et engagé la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre avant que celle-ci ne soit annulée par le Conseil d'État. Une telle rhétorique permet aux autorités publiques de justifier plus facilement l'utilisation de mesures répressives, notamment destinées à lutter contre le crime organisé et le terrorisme, note Michel Force dans son rapport du 28 février. Les États créent un climat de peur et d'intimidation, écrit-il, au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la mobilisation. Alors, ma petite aparté pour Michel Force, c'est qu'il a été directeur d'Amnesty entre 1989 et 1999, et on l'a rencontré, et c'est quelqu'un de très, on va dire, très solide et très, avec plein d'arguments, plein de connaissances. Et donc, moi, je ne savais pas ce que c'était la convention d'Aarhus. Le saviez-vous, mes amis ?
Non. Tu nous fais un quiz, c'est ça ?
Oui, carrément.
Qu'est-ce que la convention d'Aarhus ?
Voilà. Ça s'écrit comment ?
2-A-R-H-U-S.
Alors, c'est pour ça.
Donne-nous la réponse.
Alors, on parle de Michel Force, nommé en 2022 dans le cadre de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, il doit assurer que les personnes exerçant leurs droits ne soient pas pénalisées, persécutées ou harcelées de quelque manière que ce soit en raison de leur implication. Voilà ce qu'il y a dans cette convention et donc Michel Force en est le rapporteur. Et bien moi, ça m'a plu de savoir qu'on pouvait défendre les écologistes et qu'il y avait un texte, même s'il n'était pas contraint de donner la contrainte aux États. Voilà.
Moi, ça m'a plu de savoir qu'on les appelait les écureuils.
Les écureuils, c'est ça.
Bah, ils sont très costauds parce que rester dans les arbres...
Ah bah oui, hein,
Mais si, effectivement, on met le feu en dessous de l'arbre ou qu'on essaye de te faire descendre, c'est quand même aussi...
Bah, c'est des méthodes...
C'est comme quand on inonde les tentes des migrants et quand on leur mouille toutes leurs affaires en plein hiver ou qu'on leur coupe l'accès à l'eau.
C'est
donc,
ça.
Donc voilà, donc cet article est à retrouver dans la chronique de ce mois-ci pour les gens qui veulent savoir.
Ce sont des méthodes d'intimidation pour le moins utilisées par les forces de l'ordre et qui contreviennent, on l'a déjà dit puis on le redira.
Traitement cruel, inhumain.
C'est ça.
Ou dégradant, interdit par la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention.
Et qui contreviennent de toute façon aussi à notre liberté de manifester, notre liberté d'expression, etc., etc. Et que c'est tout à fait inadmissible, surtout dans un État comme la France qui se veut un État de droit, répétons-le. On fait la première pause musicale et on se retrouve juste après.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Brûler sur ses désirs brûler. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendons le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours blessures, ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. On vient d'entendre un titre qu'on vous a déjà passé, mais qui, voilà,
mais qu'on aime bien.
Mais qui est toujours tout à fait intéressant à réentendre, et qui s'appelle Le cœur du monde, un des derniers titres de Bernard Lavilliers. Et comme on a, comme Clarisse vous a préparé plusieurs dossiers concernant la justice et les décisions qui ont été prises concernant nos droits, je crois qu'il va vous parler de pacte européen.
Oui. Alors, je disais qu'il y avait du soleil tout à l'heure, mais bon, c'est un petit peu gris quand même ce qui est en train de se profiler au niveau européen. J'emploie pas le terme de gris par hasard, forcément. Le 20 décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus à un accord politique sur plusieurs dossiers clés du nouveau pacte sur la migration et l'asile, notamment le règlement sur les procédures d'asile, le règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration, le règlement sur le filtrage, le règlement régissant les situations de crise migratoire et les cas de force majeure, et le règlement Eurodac. On finit par un gros mot. Le Parlement européen a voté mercredi 10 avril en faveur de l'adoption d'un ensemble de nouvelles lois européennes en matière d'immigration et d'asile. Alors, après plusieurs années de négociations, les institutions de l'Union européenne co-signent aujourd'hui honteusement un accord dont elles savent qu'il va accroître les souffrances humaines. Pour les personnes qui fuient le conflit, la persécution ou l'insécurité économique, ces réformes entraîneront une diminution de la protection et une majoration du risque de subir des atteintes aux droits humains à l'intérieur de l'Europe, notamment des renvois forcés illégaux et violents, une détention arbitraire et des discriminations lors des opérations policières, a déclaré Eve Geddes, directrice du bureau d'Amnesty International auprès des institutions européennes et directrice des actions de plaidoyer. La réforme du pacte sur la migration et l'asile exposeront à des atteintes aux droits humains. L'Union européenne a manqué une occasion cruciale de bâtir un système d'immigration et d'asile centré sur les droits humains et de respecter sans condition le droit fondamental de toute personne de solliciter l'asile d'où qu'elle vienne et quelle que soit la façon dont elle est arrivée. Elle a échoué à montrer au reste du monde la voie à suivre sur la protection des personnes réfugiées et à proposer des solutions sûres, équitables et dignes aux personnes pour rejoindre l'Europe qu'elles cherchent la sécurité ou la perspective d'une vie meilleure. Il est clair, plus que jamais, que ce pacte sur la migration et l'asile entraînera une régression de la législation européenne relative à l'asile pour les décennies à venir et ne fera qu'accroître les souffrances, exposera encore plus de personnes au risque de subir des atteintes aux droits humains à chaque étape de leur parcours, a déclaré Eve Geddes, directrice du bureau d'Amnesty donc international auprès des institutions européennes. Depuis que ces réformes ont commencé à être proposées en 2020, chaque étape des négociations a aggravé le résultat final. Un affaiblissement des protections et de l'accès à l'asile pour les personnes en mouvement, l'élargissement de la détention et du blocage aux frontières et un report accru des responsabilités sur les pays situés en dehors de l'Union européenne. Le pacte n'améliorera en rien la réponse apportée par l'Europe aux personnes qui ont besoin de protection. Ce pacte entraînera certainement une augmentation du nombre de personnes dont les familles, des familles avec enfants et des personnes en situation de vulnérabilité placés en détention, de fait, aux frontières de l'Union européenne. Les protections pour les personnes cherchant à obtenir l'asile au sein de l'Union européenne seront réduites et de plus nombreuses personnes transiteront par des procédures d'asile à la frontière de second ordre, au lieu de bénéficier d'une évaluation juste et complète de leur demande d'asile et de leurs besoins de protection. Par ailleurs, ce pacte ouvre la voie à de nouvelles mesures d'urgence qui exposeront d'innombrables personnes au risque de faire l'objet d'un renvoi forcé illégal, d'être retenues arbitrairement et de se retrouver dans le dénuement aux portes de l'Europe. Le pacte sur la migration ne prévoit en outre pas de soutien concret aux pays de première rentrée dans l'Union européenne de ces personnes, notamment l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Au lieu de donner la priorité à la solidarité par des réinstallations et un renforcement des systèmes de protection, les États pourront simplement payer pour renforcer leurs frontières extérieures ou financer des pays hors de l'Union européenne pour qu'ils empêchent les personnes d'atteindre l'Europe. L'accord conclu permet également aux États d'être exemptés d'un large éventail de réglementations européennes en matière d'asile en période de hausse soudaine des arrivées, ainsi que dans les cas d'instrumentalisation des migrants ou de force majeure. Ces exemptions risquent, dans les faits, d'être contraires aux obligations internationales au regard du droit international relatif aux personnes réfugiées et aux droits humains. Elles empêchent d'apporter une réponse commune et humaine aux personnes ayant besoin d'une protection et font encourir à ces personnes le risque de subir de graves violations des droits humains et risquent de normaliser les mesures d'urgence disproportionnées aux frontières européennes, ce qui créera un dangereux précédent pour le droit d'asile dans le monde entier. Parallèlement, cet accord renforce la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis d'États au-delà de ses frontières pour la gestion de la migration, s'appuyant sur de récents accords conclus avec la Tunisie, l'Égypte et la Mauritanie, ou les tentatives de transfert du traitement des demandes d'asile à l'Albanie et, on le craint aussi, la Libye, la Tunisie ou la Turquie. Au lieu d'investir dans un lieu d'accueil digne au sein de l'Union européenne et d'élargir les voies sûres et légales pour permettre aux personnes d'obtenir une protection en Europe sans recourir à des parcours dangereux, cet accord constitue un pas de plus vers l'externalisation du contrôle aux frontières et un moyen pour l'Europe de se soustraire à ses responsabilités en matière de protection des personnes réfugiées. Ces pratiques risquent de piéger des personnes dans des pays où leurs droits fondamentaux seront en danger et rendent l'Union européenne complice des atteintes aux droits humains qui pourraient s'en suivre et compromettre la capacité à faire respecter les droits humains au-delà des frontières. Je rappelle quand même que la Tunisie a été mise sur la sellette par rapport à la gestion des migrants l'année dernière et par rapport au fait qu'ils en envoyaient plein dans le désert pour les faire mourir.
Ils les ont renvoyés.
Voilà. La Libye, quand même, on sait très bien que pour tous les gens qui ont des parcours migratoires qui passent par la Libye, pour beaucoup, ils sont séquestrés, ils sont mis dans des camps réduits à des formes d'esclavage pendant 3, 4, 5 mois jusqu'à temps qu'ils payent leur tribu et puis qu'ils sont délivrés aussi, après. Voilà, ouais. Et il y en a beaucoup qui périssent en Libye. Et on va demander à ces pays-là de gérer le droit d'asile. Non, mais c'est monstrueux. Donc, le vote final du Parlement européen sur plusieurs textes, dont le pacte sur la migration et l'asile, donc, s'est déroulé mercredi 10 avril à 17h. Les propositions retenues seront officiellement adoptées après avoir été acceptées par le Conseil européen avant le mois de juin 2024. Ces nouvelles lois entreront en vigueur et seront pleinement opérationnelles 2 ans après, donc au plus tard en juin 2026. Amnesty International appelle depuis longtemps les institutions européennes et les États membres de l'Union européenne à placer les droits humains au cœur de leurs négociations sur les réformes relatives à l'asile et dans l'Union européenne. Cependant, après des années de négociations complexes, l'Union européenne risque maintenant de s'engager les yeux fermés dans un système ayant encore plus besoin d'être réformé que le système actuel. Le pacte ne résoudra pas les problèmes urgents qui frappent les systèmes d'asile au sein de l'Union européenne, notamment le manque d'investissement dans les systèmes d'asile et d'accueil, les renvois forcés illégaux et souvent violents, les politiques privant des personnes du droit d'asile et l'impunité aux frontières de l'Union européenne. Sans engagement réitéré à appliquer la législation européenne et à assurer l'obligation de rendre des comptes pour les renvois forcés illégaux et d'autres atteintes aux droits humains, le pacte ne permettra pas de renforcer les protections des personnes demandeuses d'asile en Europe ou d'améliorer la réponse commune de l'Europe à la migration. Nous continuons d'appeler l'Union européenne à réagir à ces atteintes aux droits humains, largement attestées, et à prendre des mesures pour assurer une réponse respectueuse des droits humains, durable et dotée de moyens suffisants pour les personnes se présentant aux frontières de l'Union européenne. Voilà, c'était un mercredi noir.
C'est un mercredi noir et c'est à ce que tu viens de dire, Claire-Lise, ça m'a fait penser aussi à ce que j'ai dit en chapeau de l'émission tout à fait au début, par rapport aux souhaits que l'on peut formuler, par rapport aux orientations que doit prendre le Parlement européen quand il sera issu des nouvelles élections. Et malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, ce que tu viens de nous dire, c'est même exactement son opposé.
On sent le racisme monter partout en Europe, on sent des partis gris. Hein, voilà, oui. C'est pas pour rien que j'avais choisi cette couleur qui met en avant des propos racistes et qui veulent une politique justement rejetant la migration.
À force de criminaliser les gens qui demandent l'asile, effectivement, on en est à ce comportement-là. Et il y a quoi ? Il y a un mois où quand on parlait je pense que je parlais de l'Italie par rapport effectivement à fait de botter en touche sur l'Albanie, voilà, c'est des pays, mais maintenant c'est l'Europe entière qui a voté pour ces textes-là, donc ça fait quand même assez mal.
Ben, tout à fait, et comme tu disais, criminaliser effectivement les demandeurs d'asile comme on criminalise les militants écologistes, enfin etc. On les nommant éco-terroristes,
voilà. Après,
pour faire référence à Monsieur le ministre de l'Intérieur.
Je suis complètement pour défendre les militants écologiques. Je pense qu'ils ont un peu plus de retour sur eux que les pauvres qui ont passé par la Libye et qui arrivent et qui sont vraiment dans un état catastrophique. Voilà, c'est encore une misère humaine plus importante.
Et je crois, Edith, qu'on va quitter l'Europe parce que tu voulais nous parler d'une situation dramatique aussi au Soudan.
Les nouvelles sont pas top, top. J'ai commencé avec beaucoup d'optimisme par rapport au soleil, mais voilà.
Oui, bah, le Soudan, j'avais envie d'en parler parce que j'avais vu un article qui m'intéressait. Bon, là, ça fait partie de l'actualité, ce qu'on suivit un peu. Il y a une réunion des pays pour faire que ça aille un peu moins mal. Bon, j'avoue que je ne sais pas la solution qui a pu être, ou les solutions ou les aides, parce qu'après, ça sera que des aides qui a pu être décidées. Donc moi, je vais juste un peu vous revenir un peu sur l'histoire de ce pays, on va dire martyr, quoi. Le titre sur la chronique, c'était « Conflit dévastateur ». Bon, voilà, ça résume quand même bien. Donc le Soudan a une petite historique indépendant depuis 1956. Il y a 20 ans, on parlait beaucoup du Soudan et surtout de une de ses provinces, c'est le Darfour. Ce conflit au Darfour qui éclatait avec un bilan humain terrible. 300 000 morts et près de 2 millions de personnes déplacées. Donc à ce moment-là, c'était, il y avait le gouvernement, le président Omar El-Bachir, qui lui est resté au pouvoir jusqu'en 2019, je pense, et qui a été déposé à la suite d'un coup d'État. Donc on pouvait se dire que là, ils allaient peut-être s'en sortir. Mais les militaires qui ont pris le pouvoir ont supporté un gouvernement provisoire 2 ans. Et en 2021, ils ont fait un putsch. Et donc c'est ces deux factions militaires dont je vais parler. Et ces deux factions militaires ont supporté d'être ensemble pendant 2 ans. Et en 2023... ils ont mis en place des combats, des violents combats entre eux, donc à Khartoum, la capitale du Soudan, et aussi dans plusieurs villes. Donc c'est une escalade de violence qui oppose depuis cette date deux hommes forts du pays. Alors ces deux hommes forts, c'est le chef de l'État, de facto, Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée régulière, donc ce sont les forces armées soudanaises, FAS, et son numéro 2, le général Hemeti, chef d'une importante milice paramilitaire, les forces de soutien rapide, FSR. Donc ça se passe entre ces deux personnes. Et pour un petit peu plus savoir ce que c'est, bon, j'ai été voir d'où venaient ces militaires. Donc les forces armées soudanaises, donc FAS, armée régulière, et les autres, cette milice paramilitaire indépendante, c'est vraiment les deux principales forces armées au Soudan. Elles ont toutes les deux commis de graves violations des droits humains au Soudan, en particulier au Darfour. Donc les forces de soutien rapide sont notamment composées d'anciens combattants des milices Janjaweed. Donc ça, c'est un nom, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui. Ces milices qui, pendant le conflit du Darfour, faisaient des représailles dans les villages, c'était terrible, qui, dans les années 2000, ont aidé les forces armées soudanaises à écraser la rébellion dans la région du Darfour. Alors ce groupe paramilitaire très puissant s'est enrichi en acquérant des institutions financières et des réserves d'or soudanaises. On estime qu'il compte entre 70 000 et 150 000 combattants. Son chef, le général Emeti, entretient d'importantes relations avec les gouvernements étrangers, russes notamment. Il a conduit les miliciens à s'associer avec le groupe mercenaire Wagner dans l'exploitation de l'or au Soudan, à déployer des combattants au Yémen pour servir les intérêts de l'Arabie saoudite et a également envoyé des combattants en Libye pour servir les intérêts des Émirats arabes unis. Alors, de l'autre côté, les forces des armées soudanaises, quant à elles, ont commis de graves violations des droits humains, notamment en utilisant des armes chimiques contre les civils au Darfour en 2016. Donc après l'éviction d'Omar el-Bashir en 2019 et le coup d'État de 2021, ces forces ont continué à commettre, donc les deux, les FAS et les FSR, vous suivez maintenant, j'espère, à commettre des crimes au regard du droit international, des violations des droits humains. Ils ont tué des manifestants, blessé certains, enfin voilà, j'en passe, et malheureusement des choses beaucoup plus importantes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, et ce que dit Amnesty là, c'est que 20 ans après le début du conflit du Darfour, les autorités soudanaises ne parviennent toujours pas à protéger les civils, ni à enquêter sur les crimes commis pendant le conflit, et à poursuivre les auteurs présumés. Les civils du Darfour sont pris dans un cycle sans fin d'attaques armées menées sans discernement. Et ces dernières semaines, les civils ont une fois de plus encore été tués avec des armes lourdes dans des zones densément peuplées, y compris des bombardements sur la population. Donc, actuellement, où est-ce qu'on en est ? Une crise humanitaire insupportable. Et c'est un pays au bord de la famine. Le pays est en passe de subir la plus grande crise alimentaire du monde. Quelque 18 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la malnutrition est en plein essor au Soudan. Quelque 220 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et plus, et 67 000 nouvelles mères pourraient mourir dans les mois à venir s'ils ne reçoivent pas une aide d'urgence. Le chef des opérations militaires de l'ONU, Martin Griffiths, a alerté mi-mars. Sans aide humanitaire urgente et un accès aux produits de base, près de 5 millions de Soudanais et de Soudanaises, déjà en situation d'urgence alimentaire, pourraient glisser dans une insécurité alimentaire catastrophique dans certaines parties du pays. Parce qu'il y a certaines parties où on ne peut pas aller. Les routes sont bloquées. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2024, des partenaires humanitaires ont apporté une aide vitale à 2 millions de personnes, mais c'est une goutte d'eau. Et en plus, ils ne peuvent pas aller de façon possible dans tout le pays, donc soutenir des populations. Ce conflit entre les deux groupes militaires affame des parties de la population. Donc c'est aussi ce qui se passe tout de suite, c'est des millions de déplacés. C'est la plus grande crise de déplacement du monde. En un an, l'ONU estime que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays s'élève à 10,7 millions, donc 9 millions à l'intérieur du pays. Alors ces personnes ont fui vers l'Égypte, vers le Tchad, la RDC, le Soudan du Sud. Alors, ça, c'est aussi très embêtant parce que ce sont des pays autour qui sont des pays dans une. Qui ne sont pas dans un pays, des pays très stables à l'échelle régionale. Donc, le Tchad, qui reçoit actuellement, on peut compter plus d'un million de réfugiés soudanais. Donc quand on voit l'Europe qui en... Hein, bon, voilà, oui. On va dire qu'il n'y a pas de... sur son territoire, mais elle doit faire face à des tensions communautaires, à du trafic d'armes, car pour construire un camp, bah, il faut occuper des terres. Les terres, ce sont des terres agricoles, donc c'est très compliqué. Et il y a aussi très souvent une augmentation des produits de base quand il y a une arrivée comme ça de personnes qui viennent se réfugier. Bon, la Centrafrique aussi, un pays qui peine à sortir de plusieurs décennies de conflits. Et on imagine bien comment c'est compliqué pour accueillir ces gens-là. Alors, une bonne nouvelle, enfin bon, vous allez voir, c'est pas tellement une bonne nouvelle, mais il y avait une commission d'enquête qui était prévue au niveau des Nations Unies. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu pourvoir les 17 postes d'enquêteurs. Car certains pays aussi ne paient pas leur contribution à l'ONU. Donc, eh ben, pour l'instant, il y a un peu de monde, mais pas assez pour réellement faire des enquêtes sérieuses. Le temps presse, car le mandat s'achève à la fin d'année. Cette mission internationale est l'une des seules mesures concrètes prises pour répondre aux conflits en cours. Et il est crucial qu'elle soit aidée. Mais on n'en sait rien. Et alors, pour continuer, juste pour la fin, c'est ce que tu disais, Claire-Lise, c'est ben, les gens qui arrivent. Imagine, le Soudan, vous mettez ça au centre de l'Afrique. À partir de l'Afrique, à passer tous les pays et à demander l'asile en Europe, ben on va quand même les accueillir. C'est une telle condition, ce n'est pas possible. Même la CNDA, c'est-à-dire la Cour nationale du droit d'asile en France, a dit qu'à Khartoum, la situation était d'une violence aveugle, d'exceptionnelle intensité. Eh bien non, la France, on arrive quand même à en renvoyer.
Ah ben oui, moi parce j'en ai que, vu là,
il y a pas... Bah, il y a juste un aéroport qui est ouvert, c'est celui de Port-Soudan. Donc on se dit, bah, t'es arrivé à l'avion, c'est normal. Mais ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est que les routes derrière, elles sont bloquées. Donc la personne, elle va se retrouver, si elle va aller à l'autre bout, le Soudan, c'est grand. Elle ne va pas pouvoir y arriver. Donc d'un autre côté, la CNDA dit, non, non, on les garde tous, c'est pas possible, on ne peut pas aller... Mais l'État français quand même hésite un petit peu. Pourtant, cette réalité de prise en compte de la CNDA est ignorée dans les mesures d'expulsion des demandeurs d'asile soudanais. Alors, Amnesty, devant ce tableau tellement catastrophique, demande quand même aux autorités françaises une cohérence entre le constat partagé de la gravité du conflit au Soudan et leurs pratiques en matière d'asile, d'enfermement et d'expulsion, et de protéger sans exception, tous les demandeurs d'asile soudanais en France. Et il est urgent que la France remette les droits fondamentaux au cœur des politiques migratoires et se conforme aux obligations qu'impose le droit international. Alors ça, ce texte-là, c'est Amnesty, mais c'est aussi la CIMAD, le FDDH, il y a au moins 5-6, je ne vais pas toutes les données, organisations qui ont signé ce texte.
Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure
tout
aussi
à
sur les engagements de la France sur le traité sur le commerce des armes et la convention de Genève par rapport aux réfugiés, signée aussi par la France et que les autorités françaises ont bien du mal à respecter. On est encore une fois rattrapé par la pendule et même dépassé par la pendule ce soir.
Et encore, j'ai fait un raccourci de la...
Allez, une petite musique peut-être.
Une petite musique et on se retrouve juste après.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi,
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation, recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent, je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. On vient d'entendre une chanson qui parle aussi d'Afrique, suite à la chronique d'Edith. Et sur ce Gaël Faye, je ne saurais jamais comment on
prononce. Faye, on t'a dit.
Bah oui, mais à chaque fois, je me trompe. Et qui s'appelle Petit Pays. Voilà, bah, on va toucher au terme de l'émission. Enfin, il nous reste encore quelques infos à vous donner, mais le temps passe vite. Et moi, je voulais vous parler de deux petites brèves, toujours tirées de la chronique. Encore une fois, la chronique, abonnez-vous.
Big Brother.
Et Big Brother, c'est ça, donc droit à l'épreuve des nouvelles technologies. Et deux petites brèves qui m'ont frappé là, ce mois-ci.
Oh,
parce
pas
que...
fort quand même.
Non. Non, non. Qui ont frappé ma sensibilité, on dirait, et puis mon intelligence, dirons-nous. Et donc, qui concernent deux pays bon, qui pourtant ne passent pas pour des dictatures très, très violentes, mais qui sont attentatoires à nos droits. La première, ça se passe à Londres. Ça s'appelle Big Brother prend le métro. Un logiciel de surveillance doté de 11 algorithmes a été testé pendant un an dans la station de métro londonienne Willesden Green. Du dépassement de la ligne jaune à la détection d'un outil assimilé à une arme, 440 000 alertes ont été émises lors de cet essai, dont 19 000 transmises au service de sécurité pour intervention. Beaucoup d'erreurs commises par cette intelligence artificielle ont cependant été relevées. Par exemple, un homme s'étirant a été détecté comme menaçant. Et bien sûr, cette expérimentation s'est faite sans le consentement des usagers. Donc, on pourrait dire, souriez, vous êtes filmé, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Et l'autre, alors, c'est au Canada, ça s'appelle confiserie piégée. L'université de Waterloo, au Canada, un étudiant glisse une pièce dans un distributeur automatique de M&M's. Un message d'erreur indique que la machine n'a pas réussi à lancer l'application de reconnaissance faciale. Stupeur. Personne dans l'université ne savait que le distributeur de bonbons était muni d'un tel système. La filiale du groupe Mars, qui commercialise les M&M's, jure que cette technologie ne permet pas d'identifier une personne en particulier. N'empêche que l'âge et le sexe estimés sont collectés. Mais promis, les données ne sont stockées jusqu'à preuve du contraire. Pas de quoi rassurer les étudiants qui ont obtenu de la direction de l'université le retrait de cette machine. Donc voilà, on en est arrivé à une situation. On vous a déjà parlé de reconnaissance faciale et avec l'approche des JO, on vous en reparlera utilisée par la France.
Didier, on donne que des mauvaises nouvelles. Donc Edith, elle vient d'en trouver une bonne
d'accord,
nouvelle.
Alors, vas-y. Une bonne nouvelle. Ne crie pas trop fort, sinon on va saturer.
Mais non, mais je ne suivais pas. Mais tu nous regardais pas. Alors donc, une bonne nouvelle. Donc, Guatemala. En dénonçant les agissements d'un juge, l'ex-procureur Virginia Lapara, spécialiste dans la lutte contre la corruption, s'était attiré les foudres de la justice. Condamné à 4 ans de prison le 16 décembre 2022 pour abus d'autorité, elle avait été adoptée par Amnesty International comme prisonnière d'opinion. Grâce à une forte mobilisation à l'échelle mondiale, elle a été libérée le 3 janvier dernier. Depuis 2018, au moins 45 procureurs et juges ont dû fuir le Guatemala pour éviter des poursuites infondées qui les conduiraient en prison. Donc Virginia est libre. Voilà. Bonne nouvelle avec la mobilisation.
C'est une bonne nouvelle et ça va inciter encore une fois toutes celles et ceux qui nous écoutent à nous mobiliser avec Amnesty parce qu'on obtient effectivement ce genre de libération ou même de vie sauvée. Donc ça a été loin d'être négligeable. On va toucher au terme de l'émission et on va saluer Manu du laboratoire qui vient d'arriver dans le studio et qui va prendre la suite de l'antenne. Et donc, on a plusieurs informations
locales, régionales. Locales,
Amnesty, je reprends mon souffle. Plusieurs informations locales. Donc tout d'abord, on vous en a déjà parlé à la dernière émission, mais c'est un petit rappel. Jeudi 18 à 18h sur l'antenne de Principe Actif, on a une nouvelle émission dans la série Fréquences droits humains. Je suis comme Claire Lise, je tousse. Fréquence droits humains, et donc à 18h sur l'antenne de Principe Actif, pendant 1h30, et à ça consacré à la défense des droits des gens touchés par des handicaps invisibles. Voilà. Donc on ne vous en dit pas plus, mais surtout soyez à l'antenne jeudi 18 à 18h. Après notre prochaine émission Amnesty, nous, bimensuel, le mardi, ce sera le 30 avril, en direct à 19h sur l'antenne de Principe Actif. Le 13 mai, donc c'est un petit peu après, on est partenaire du Tangram pour un spectacle qui s'appelle Yé l'eau. C'est un spectacle de danse, mais qui a trait en fait à la thématique du droit à l'eau et qui est fait par une troupe de danse africaine et dont on a entendu le plus grand bien. Donc on est partenaire du spectacle et n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à prendre vos places auprès du Tangram. C'est au théâtre le lundi 13 à 20h. Et enfin, c'est encore un peu plus loin, mais vous pouvez déjà noter la date. Amnesty Évreux anime une projection débat au cinéma Pathé à Évreux autour du film qui s'appelle « Avant que les flammes ne s'éteignent », qui n'est jamais passé à Évreux, qui est de l'année dernière et qui parle des violences policières en France. Et ce sera le jeudi 23 mai à 19h au cinéma Pathé d'Évreux. On y tiendra un stand d'information et on animera un débat à l'issue de la projection du film. Donc le jeudi 23 mai, 19h, au cinéma Pathé. Qu'on remercie déjà pour nous avoir autorisé organiser cette soirée en concert avec eux. Voilà. Donc on va rendre l'antenne et on va laisser la place au laboratoire. Et on vous souhaite à tous et tous et toutes une bonne soirée.
Bonne soirée.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.